Radio Bocage à Moulins 96.5.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bocage 96.5 FM, la radio libre et laïque de la Ligue de l'Enseignement, et cela depuis 1983. En cette journée du mercredi 25 juin 2025, votre émission d'information. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, mais qui n'a jamais été autant d'actualité. Nous recevons dans nos studios des archéologues du collectif de lutte des archéologues d'Auvergne, mais aussi des historiens. Je vais commencer par les archéologues, Franck Chaléa, Gabriel Roch, bonjour.
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 Mais aussi Vincent Présumé, professeur d'histoire agrégé. Bonjour Vincent. Alors messieurs, avant de parler de l'actualité qui nous réunit, les archéologues bourbonnais, vous étiez mobilisés il y a peu en créant ce collectif régional pour faire entendre vos craintes sur la loi de simplification économique. Alors pouvez-vous nous expliquer votre mobilisation et expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que cette loi de simplification économique et en quoi ça touche les archéologues du coup.
Alors oui, effectivement, Franck. on était mobilisés, alors plus particulièrement pour un amendement et un article particulier qui était sur les projets d'intérêt national, puisque c'était une partie de la loi qui voulait simplifier les démarches lors de l'établissement d'un projet dit d'intérêt national, alors une dénomination qui pouvait recouvrir autant des constructions, des équipements d'ordre énergétique, d'ordre routier, d'ordre logistique, etc. Justement, ce qui nous embêtait, c'était d'une part le flou de la notion, puisque sous ce chapeau, il n'y avait pas de définition stricte, et en gros, c'était à l'appréciation du législateur, des décideurs, etc. Enfin, du moins, le législateur avait prévu de laisser ça très large comme acception. Et deuxièmement, sous ce chapeau de projet d'intérêt national, on allait simplifier les démarches jusqu'à un point tel que les études d'impact préalables, avant tout projet d'aménagement, pouvaient être littéralement supprimées, pouvaient passer au-dessus de ces études d'impact. Et parmi les études d'impact, il y a évidemment les études archéologiques, qui sont, comme chacun sait, pour la plupart des cas, une étude qui est faite en amont des travaux, lorsque des aménagements ont été décidés, sur une surface précise, pour vérifier la présence ou non de vestiges archéologiques intéressants et, le cas échéant, leur fouille, leur analyse précise pour pouvoir en retirer des enseignements d'ordre historique, archéologique, sur l'occupation du sol, les anciens habitats, éventuellement les tombes, les églises, les châteaux, etc. Une étude donc qui, au même titre que l'environnement, par exemple, permet de documenter et de retirer le maximum de renseignements sur des choses qui vont être littéralement détruites ou du moins largement impactées par ce projet d'aménagement. Donc quand on intervient, nous, effectivement, c'est pour essayer de retirer tout ce sel historique et archéologique des vestiges qui vont être littéralement, au mieux rabotés, au pire totalement oblitérés par le projet. Et donc, si cet amendement passait, était voté, devant le flou de la définition de ces projets d'intérêt national, c'est quasiment tout et n'importe quoi qui aurait pu être concerné par cette évacuation, cette suppression des études d'impact et notamment de l'impact archéologique. Donc ça veut dire que toute une série de projets aurait pu littéralement se faire sans qu'on documente, sans qu'on analyse, sans qu'on prélève et sans qu'on comprenne les vestiges archéologiques qui auraient disparu à cet endroit. Ça peut paraître anecdotique, c'est pour nous important parce que à l'endroit de certains projets, on a littéralement une succession, une sorte de feuilletage des vestiges. On peut avoir des concentrations à certains endroits qui couvrent plusieurs dizaines de siècles, depuis les Gaulois ou voire les hommes préhistoriques jusqu'à la fin du Moyen Âge ou au 19e siècle, avec tous les états conservés. Et c'est d'autant plus dommageable que quand on intervient dans ce contexte-là, les archéologues sont littéralement les derniers à voir les vestiges en l'état. et que pour faire notre travail, on les démonte, donc on les détruit en partie en même temps qu'on les étudie, puisqu'on a besoin de les décortiquer pour comprendre ce que c'est. Donc on détruit en partie les murs, on fouille les fosses, les dépotoirs, etc. On vide les cabanes, tout ça. Et donc, si tout ça est détruit sans passage d'archéologue, c'est littéralement une part du passé qui part. D'autant plus que on a tendance à considérer que tous nos sites sont uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux fois exactement la même chose. Et donc, on pourrait très bien se dire, effectivement, c'est pas grave à un endroit de détruire, je sais pas, un village gaulois, de détruire un campement préhistorique, de détruire un reste de château. Effectivement, dans l'absolu, c'est sans doute moins grave que d'autres choses. Mais pour la connaissance scientifique et historique, en fait, on sait qu'on aura quelque chose d'unique qui ne se reproduira jamais, qui aura littéralement disparu de notre paysage et de notre patrimoine et sur lequel on ne pourra plus jamais mettre la main.
Donc, c'est pour ça que vous êtes tous montés à Paris. Du coup, le collectif est né. Vous êtes montés à Paris le jour de... Vous êtes rassemblés nationalement, du coup, avec les autres archéologues de toute France et de Navarre.
Tout à fait. C'était un rassemblement qui a associé des archéologues de plusieurs structures. Oui. Donc, il y avait des structures nationales, notamment l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, qui est un organe d'État. Des archéologues de collectivités territoriales, pour ce qui me concerne, donc de départements ou de services municipaux. Et puis il y avait des archéologues aussi d'opérateurs privés, puisque en France, depuis le début des années 2000, on a une mise en concurrence de l'archéologie, d'une partie de l'archéologie, notamment des fouilles, et donc on a des opérateurs privés qui existent en France, des sociétés d'archéologie, et donc certains archéologues de ces sociétés-là sont venus défiler avec nous, puisque ça touche l'ensemble du corps des archéologues.
D'accord. Gabriel.
Oui, alors pour compléter ce que dit Franck, on était donc 1300 archéologues à défiler.
Ah oui, oui, ça
à
fait du monde.
Ça fait du monde, alors ça peut paraître peu, justement,
oui, mais
par rapport
pour rassembler, vous n'êtes pas non plus des millions d'archéologues
et
en France.
C'est ça, c'est qu'on est 3000 à 3500 archéologues en France.
Ah oui, donc ça fait la moitié.
Donc ça fait un bon tiers, en tout cas, des archéologues qui étaient présents à Paris, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et notre manifestation a quand même eu un impact, puisque les sénateurs ont décidé de retirer l'amendement qui posait problème. Donc on n'est plus, en théorie, embêté de ce point de vue-là, par cette loi de simplification de la vie économique.
Il faut qu'elle repasse à l'Assemblée, du coup.
Voilà, il faut qu'elle repasse à l'Assemblée, donc ça, on va voir ce que ça va donner. Donc on continue un petit peu la pression. Et le collectif de lutte des archéologues en Auvergne se mobilise aussi sur un autre projet, puisque la sous-direction de l'archéologie, donc qui dépend directement du ministère de la Culture, a envoyé une note à toutes les DRAC. Donc les DRAC, ce sont les directions régionales des affaires culturelles, qui sont les représentants du ministère de la Culture en région, pour demander de ne plus prescrire de diagnostic archéologique. Donc ce sont les évaluations qui se font en amont des travaux d'aménagement, sur les projets d'agrivoltaïsme, donc de centrales photovoltaïques dans le monde agricole. Donc pour nous, ça, c'est extrêmement problématique.
Et oui,
donc,
parce qu'il y en a de plus en plus, c'est dans des endroits...
Il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup, beaucoup dans l'Allier, on a des milliers d'hectares de prévus dans l'Allier. Et donc là, le DRAC Auvergne-Rhône-Alpes a annulé 8 prescriptions de diagnostic sur des centrales photovoltaïques dans l'Allier.
D'accord.
Donc il y a 8 projets de centrales photovoltaïques qui n'auront pas d'évaluation archéologique préalable. Oui. Pour nous, c'est extrêmement problématique parce que sur ces 8 centrales, il y avait au moins 3 sites archéologiques déjà référencés.
Ah, en plus. Oui.
Voilà. Et on sait que certains diagnostics livrent des résultats extrêmement intéressants. Et donc on va vers la destruction de vestiges archéologiques déjà dans l'Allier dans les mois qui viennent.
Alors on parle d'identité bourbonnaise et de notre histoire, du coup on est face à un pan de l'histoire. Et ça tombe bien, ça, la transition est parfaite. L'actualité qui nous rassemble aujourd'hui, une fois de plus, c'est le sulfureux spectacle Murmure de la Cité. Alors Vincent Présumé, tu es le mieux placé pour nous faire un historique sur ce spectacle polémique pour nos auditeurs et un peu raconter toutes ces coulisses avant de parler de ce qui nous rassemble ce soir.
Je vais tenter de résumer et je crois que maintenant on peut dire non seulement sulfureux mais dangereux. Et qu'il est temps d'alerter l'opinion publique démocratique de toute tendance politique républicaine dans ce département. Depuis plusieurs mois, on nous annonce un spectacle extraordinaire qui est censée nous donner la vérité de l'histoire de France, l'essence profonde du peuple. Sur leur prospectus, il est annoncé que ça sera la France éternelle guidée par la divine providence et autres facéties de ce genre, telles que par exemple 1940, année de résilience de la France. Le chef de l'association Murmures de la Cité, Guillaume Senet, sous le pseudonyme de Guillaume Pauliste, dirige une autre association qui s'appelle Sophia Polis. Alors, il est temps de comprendre. Hein. Sophia Polis, en grec, ça veut dire la cité de la sagesse. Quelle est cette cité qui murmure dans Murmures de la Cité ? C'est Sophia Polis, c'est parfaitement clair. Et Sophia Polis tient, après le spectacle, une université d'été dans le château familial où toute l'extrême droite de l'extrême droite racialiste et catholique intégriste est invitée. Bruno Gollnisch, l'africaniste racialiste Bernard Lugan, le prêtre pétainiste François Scribe, j'en passe et des meilleurs. Et avec le pognon ainsi drainé, il est question, sous l'égide d'un membre de cette coterie, Florian Lee Machabert, qui se fait appeler Lys Machabert, d'ouvrir une école privée hors contrat à Moulins à la rentrée, qui se targue de refuser les financements publics, mais qui affiche sur son site que son premier bailleur, c'est Murmures de la Cité, qui est une machine à drainer les financements publics. Murmures de la Cité est une machine à pognon. On est entre 140 000 et 175 000 euros de subventions publiques, et en même temps, le milliardaire libertarien exilé fiscal, intégriste d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, garantit le financement. Voilà le problème devant lequel nous sommes confrontés, et c'est une opération politique. Faire plonger M. Riboulet, faire plonger M. Périssol, faire plonger toute la droite et une partie du centre dans cette opération qui vise à préparer l'union des droites, car ces gens-là veulent gouverner tous ensemble. Alors moi, je dis là aujourd'hui alerte. Parce que tout le monde doit comprendre maintenant à Moulins que le 11 juillet, si ce spectacle a lieu dans le parvis public du Centre National du Costume de Scène, dans le public, vous aurez sans doute des Moulinois, des curieux, des touristes de passage, vous aurez beaucoup des militants d'extrême droite qui vont converger sur Moulins de toute la France. Alors que des gens qui ont dénoncé ces financements publics sont l'objet de menaces de mort sur certains sites d'extrême droite, c'est mon cas. Ainsi que celui de mon camarade Laurent Andruziak, secrétaire de l'Union départementale CGT. Il faut que les gens sachent cela. Alors qu'une employée de l'Office du tourisme de Moulins, que je ne nommerai pas, a fait l'objet d'un appel à ce qu'on la harcèle en disant « Adressez-vous à la donzelle, pour lui dire votre façon de penser. Voilà ce qu'il y a derrière, voilà ce qu'il y a avec Murmures de la Cité. » Alors, il est temps que la plaisanterie s'arrête. Il est temps que M. Périssol et tous les autres arrêtent de nous dire « Oh mais c'est un joli spectacle qui va valoriser Moulins et tout ça. » Vous êtes en train de faire pénétrer les barbares dans la ville de Moulins au mois de juillet. C'est la première fois que je m'échauffe sur ce sujet, mais c'est aussi parce que je suis personnellement menacé. Et je vous promets que tous nos élus locaux vont entendre parler de cela. Il va falloir qu'ils s'expliquent, il va falloir qu'ils reviennent sur leurs décisions, si toutefois leur projet politique est que Moulins reste dans la République française.
Justement, Vincent Présumé, l'extrême droite, toute cette organisation de cette association, attaque souvent ce qu'on voit sur les réseaux. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a des piratages de comptes de personnes qui sont contre ce spectacle, généralement. Explique que la gauche, le laïque, les républicains attaquent le spectacle au nom de la liberté d'expression. Ils veulent censurer ce spectacle. Est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler, alors nous, la Ligue de l'Enseignement, nous avons un parti pris là-dessus. La ligne rouge a été franchie par rapport à la laïcité, donc une de nos valeurs qui est importante. Donc Didier Boudonna, notre président, a pris position là-dessus, et nous sommes la radio de la Ligue de l'Enseignement. Ils attaquent souvent en disant la liberté d'expression, la liberté du spectacle. Le problème, ce spectacle avait lieu dans leur château à Cressanges avec des fonds privés, bon, chacun fait ce qu'il veut de ce côté-là, mais le problème de ce spectacle, c'est que c'est dans un lieu public, avec un monument national derrière, et avec de l'argent public.
Ah, totalement, avec une fontaine d'argent public. Comme donc jamais. Ce que nous avons mis en cause, nous, à Moulins, on n'a jamais été pour interdire quoi que ce soit, mais on n'apprécie pas que nos impôts servent à financer cela. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur résidence privée. En outre, ils prétendent représenter la vraie histoire de France. Alors moi, qu'on s'amuse en mettant des armures, je veux bien, tout à fait. Astérix, ça n'a jamais posé problème. Là, on a affaire à tout autre chose. Donc, lorsqu'on a mis en cause le financement public, ils ont prétendu qu'il y avait une meute d'extrême-gauche qui voulait les interdire. Mais là, ils commencent à montrer leur vrai visage, parce que c'est eux qui font des menaces, c'est eux qui font des menaces de mort, c'est eux qui font pression sur les élus. Qu'est-ce que c'est qu'une association, un spectacle gentil qui a besoin de recourir à des méthodes pareilles pour imposer ce qu'ils veulent faire passer ? Je crois que maintenant, les choses doivent devenir claires. Hein, et la liberté d'expression, ils peuvent s'exprimer tant qu'ils veulent. Hein. La République le leur garantit, cette République ils détestent. Elle leur fonde les conditions de leur liberté d'expression à eux. C'est ça que nous défendons.
Alors justement, spécialiste d'histoire, les historiens, les archéologues, tout le monde du patrimoine local, c'est les premiers qui m'avaient averti, mon ancienne équipe l'a mal coiffé. Alors je tiens à dire aussi déontologiquement que je suis signataire de cette lettre en tant qu'ancien animateur du patrimoine pendant de très nombreuses années en tant que saisonnier à la mal coiffée. C'est mon ancienne équipe qui m'a interpellé il y a déjà plusieurs mois sur ce sujet. Donc beaucoup de gens dans l'histoire étaient choqués de voir ce qui se passe, et c'est pour ça qu'une lettre ouverte a été créée sur ce spectacle. Et du coup, bah, vous êtes tous là autour de la table, vous êtes tous co-signataires de cette lettre. Pourquoi vous avez voulu faire cette lettre, Franck, Gabriel, par exemple, pourquoi vous avez voulu lancer cette lettre ?
Cette lettre ouverte, elle rassemble vraiment un collectif qui est très large, de personnes issues de corps de métiers très différents, qui ont tous trait à l'histoire ou au patrimoine, donc archéologues, historiennes, historiens, agents du patrimoine, membres d'associations, des enseignantes, des enseignants, etc. Et tous les signataires ont des couleurs politiques différentes. Mmh. On est vraiment sur un regroupement de personnes apolitiques. Mmh. On n'est vraiment pas là pour défendre une couleur ou une mmh. autre. Notre seule problématique, c'est la préservation de la véracité historique. Et ça, on est en capacité de le faire en tant que scientifique ou en tant que personne soucieuse de l'éducation populaire, mmh. Voilà, pour que chacun puisse se retrouver dans un spectacle historique. Alors le problème de Murmure de la Cité, c'est que c'est un spectacle qui est affiché comme une reconstitution historique, mmh. Ce qui, visiblement, au vu des éléments qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, n'est clairement pas le cas. Les descriptions auxquelles on a pu avoir accès montrent clairement que ce projet vise à alimenter le récit national. Donc ça, c'est le récit national, c'est un récit qui est développé depuis la Troisième République, mmh. Au départ par les Républicains, pour rassembler mmh. des régions qui étaient assez diversifiées, bien avec sûr. Des langues diverses.
À l'époque des colonies aussi.
Voilà, autour d'un même projet commun, la France. Mmh. Et qui effectivement a été et qui a évolué au cours du temps. Hein. Au départ, les fondateurs de la France, c'était Clovis, mm-hmm. puis ensuite c'est devenu Vercingétorix. Ouais. Voilà. Et on retrouve tous ces éléments dans ce spectacle. Et donc qui a effectivement une trame historique, mais qui est orientée vraisemblablement vers un discours idéologique mm-hmm. que nous combattons clairement. Oui. Nous avons en tant que scientifiques une neutralité que nous cherchons à inculquer, voilà, et là clairement c'est pas le cas dans le spectacle qui semble être proposé.
Ils s'en vantent d'ailleurs, ils disent qu'ils veulent faire un nouveau Puy du Fou au niveau bourbonnais, c'est-à-dire qu'il y aura un peu, alors le territoire de la Vendée, on va pas dire que ce soit le territoire le plus républicain de France avec son histoire très particulière, mais on sent qu'ils veulent réinterpréter l'histoire, vraiment inculquer une histoire qu'au grand public qui ne connaît pas forcément toute notre histoire.
Il me surprendrait beaucoup qu'ils incorporent des éléments de l'histoire du Bourbonnais tels que Émile Guillaumin, oui. Hubertine Auclert, Suzanne Labourbe, savez-vous qui est Suzanne Labourbe, institutrice à la Palice,
Maurice Talon,
massacrée par les soldats français à Odessa, les résistants, Maurice Talon, Christophe Tivrier, Pierre Brison, oui. les bûcherons beaucoup. Des forêts du centre de l'Allier qui, en 1790, par centaines et centaines, ont pris d'assaut les châteaux. Je ne pense pas que ce soit la conception de l'histoire du Bourbonnais, de Guillaume Senet and co. Par contre, nous, en tant qu'historiens et archéologues, les moines de Cluny, de Souvigny, bien sûr qu'on les intègre. On ne va pas les dire que ça n'existe pas. Mais l'histoire, c'est quelque chose de global et de réfléchi.
Franck, du coup, c'était important pour toi, cette lettre ouverte, et de montrer que les professionnels de l'histoire veillent à notre histoire commune, qui a toutes et tous.
Alors oui, c'était important. Comme Gabriel l'a dit, effectivement, nous, le collectif s'est monté vraiment sur des bases de compétences professionnelles scientifiques, pas du tout sur une visée partisane, parce que effectivement, bon, comme d'autres avant eux, le discours des organisateurs, de la troupe du spectacle semble toujours véhiculer une histoire telle qu'elle aurait été écrite si elle n'avait pas évolué depuis quasiment la Troisième République, ou du moins peut-être les années 30-40. C'est-à-dire tous les acquis après qui ont été faits par l'école des annales, par d'autres écoles historiques, la microstoria, etc., sur les histoires personnelles, sur l'histoire qui se fait en dehors des grands hommes.
Oui.
Et aussi sur l'histoire des territoires. Mmh. C'est-à-dire que là aussi, alors plus particulièrement pour moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le sous-texte sur le territoire français qui est donné. Alors territoire, on semble lire dans la présentation, territoire avec un signe d'égalité avec le peuple. Mmh. Hein, donc quelque chose qui est très, comment dire, qui rappelle une littérature qui lie un peuple avec son sol, qui irrigue le sol avec son sang, etc. Quelque chose qui est très marqué sur l'identité. On ne va pas rappeler les auteurs qui en ont parlé, mais c'est justement très gênant parce que l'histoire a beaucoup évolué et même depuis Fernand Braudel, on sait que justement le territoire qui a donné la France actuelle, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans l'histoire, et la notion même de France, il resterait à voir depuis quand est-ce qu'on peut l'appliquer dans l'histoire. C'est-à-dire que parler de France en l'associant à Vercingétorix, parler de France en l'associant à Clovis, c'est littéralement aujourd'hui des non-sens historiques.
C'est anachronique.
Ouais, c'est anachronique. Il faudrait vérifier aussi de quelle manière le territoire français a évolué en termes de géographie, d'étendue, d'emprise, de structure. Mmh. Et parler de France avant François Ier ou l'époque moderne, ça me semble, ça semble à l'ensemble du corps historique aujourd'hui, académique, universitaire, très discutable, sinon totalement inepte. Donc, lier les deux, c'est sur un temps long, comme s'il y avait une sorte de continuité territoriale, ethnique, etc. C'est littéralement un non-sens. Enfin, il suffit de lire la majorité des manuels universitaires et des œuvres historiques actuelles pour voir à quel point l'histoire met beaucoup de nuances là-dedans et montre une construction politique, sociale, historique, ethnique aussi, qui est très diversifiée. Qui a quelquefois des retours en arrière. En tout cas, une histoire tumultueuse, c'est pas un trait continu. Et du coup, parler de France éternelle, c'est quelque chose qui est absolument anti-historique. Littéralement, ça ne reconnaît pas la complexité, la nuance et les évolutions de l'histoire territoriale, disons du territoire qu'aujourd'hui on nomme France, qui s'est appelée Gaule, les Trois Gaules, qui a une structure féodale complètement morcelée, etc., etc. Ensuite, le choix des figures. Évidemment,
ils veulent faire du local, mais bon, ils parlent de figures qui n'ont rien à voir avec le local, certains.
Alors, on pourrait éventuellement considérer qu'on peut réinjecter l'histoire du Bourbonnais dans une perspective plus large, qui pourrait convoquer des figures, à échelon national. Pourquoi pas ? Le choix des figures reste lui aussi discutable, c'est-à-dire pourquoi privilégier Clovis, qui dans sa pratique et la construction territoriale a peut-être été beaucoup moins productif que par exemple Charlemagne, mmh, ou d'autres rois maintenant oubliés du tout début de la féodalité ? Pourquoi spécifiquement s'appesantir sur les chevaliers, sur les églises, qui certes ont leur importance dans la construction du territoire, mais si on veut véritablement bâtir une histoire sur le temps long, mmh, il y a des effets de structure sur le territoire national qui proviennent d'autres dynamiques. Donc c'est un peu tout ça qui nous gêne, mmh, d'un point de vue scientifique. Et encore une fois, le collectif s'est aussi monté sur une vraie question. Effectivement, comme ça a été dit avant, le spectacle aurait pu tout à fait se présenter comme étant une œuvre de fiction, de divertissement. Oui. Voilà, nous sommes un spectacle type de théâtre, par exemple, de costumes. Voilà, nous allons ambiancer les soirées bourbonnaises en présentant des images. Oui. Après tout, pourquoi pas, si on se réclame d'une vocation de divertissement, chacun peut présenter ce qu'il veut, on peut même jouer avec l'histoire, on peut faire des pastiches, on peut jouer à l'Uchronie, etc. Il y a toute une série de choses qu'on peut faire intellectuellement qui sont très très intéressantes. Mais si on se présente sur une affiche comme étant un spectacle à vocation historique, et si on veut faire véritablement de l'éducation du peuple, c'est ce que le texte semble laisser entendre quand même, le texte de présentation, les sites, les réseaux sociaux, etc., et bien là, il nous semble qu'il faut quand même essayer de prendre en compte ce que les scientifiques divers et variés ont établi depuis maintenant deux ou trois siècles qu'on fait de l'histoire avec des méthodes renouvelées et qu'on cherche comment les peuples ont habité, occupé des territoires, comment ils se pensaient, comment ils se voyaient, etc. Donc,
comment ils se mélangeaient.
Voilà. Comment ils se mélangeaient.
N'en déplaise à
effectivement. comment ils se guerroyaient et comment ils se mélangeaient. Et de faire passer les frontières et les limites à l'endroit des limites actuelles de la France, alors que sur les différentes époques dont on parle, quand même, on avait des limites internes au pays, on a eu des limites très très locales, par exemple, et le Bourbonnais en est un exemple, entre voilà, le comté de Nevers, les fracturations propres au Bourbonnais ou sur ses marges, etc., son inclusion dans le territoire du Royaume de France, qui n'était pas donnée non plus. Donc voilà, il y a tout ça, on a l'impression que tout ça est gommé. C'est anti-historique si vraiment on veut produire un spectacle historique. Donc voilà, on pourrait effectivement convoquer des spécialistes et y passer des heures pour expliquer pourquoi est-ce que justement on ne peut pas parler d'une France éternelle et d'un récit national, comme le disait Gabriel, qui fait comme si de tout temps la France avait pour vocation à se développer de telle et telle manière, à se défendre contre tel et tel ennemi et à occuper un territoire qui est celui qu'on connaît. Par rapport au choix des figures, quelque chose aussi qui nous semblait, qui posait question, c'était par exemple le choix d'une figure comme Clovis. Si le texte de présentation du spectacle insiste sur le fait que la France, apparemment éternelle, ne se retrouve et n'est jamais elle-même que lorsqu'elle se rassemble pour se défendre contre des envahisseurs, que faire d'une figure comme celle de Clovis, qui quand même, à l'époque où il apparaît sur la scène historique et territoriale par rapport au peuple gallo-romain, disons gaulois, romanisé, etc., est littéralement un envahisseur. Venu de l'autre côté du Rhin, le peuple franc est quand même un peuple germain. Est-ce à dire que donc une fois qu'ils sont assimilés, les envahisseurs étrangers sont littéralement font partie de la souche française. Voilà, c'est des raccourcis historiques qui sont quand même assez navrants. Et donc ça fait partie des choses qui nous ont gênés. On pourrait en lister d'autres, mais c'est par exemple une des choses éclairantes qu'on pourrait citer.
Justement, Gabriel, dans la lettre ouverte, il y a un sujet qui nous intéresse évidemment, d'où notre mobilisation, d'où la Ligue de l'enseignement, c'est la laïcité. Vous parlez de la laïcité dans cette lettre ouverte.
Oui, alors effectivement, le comme disait Franck, le choix des personnages n'est quand même pas anodin.
Ils sont beaucoup religieux.
Voilà, il y a beaucoup de personnages qui ont une vraie présence religieuse. Mm-hmm. Alors, ce qui effectivement peut s'entendre pour partie, la religion est très présente aux différentes époques.
Bien sûr.
Mais là, on sent quand même une présence très très marquée. Avec des personnages également qui sont là pour défendre la France contre les envahisseurs. Donc ça, c'est aussi un parti pris qui nous semble assez problématique. Et puis, effectivement, le fait de faire une représentation de ce spectacle dans un lieu public comme le CNCS, qui est un musée national, est encore plus problématique. Voilà. Donc là, on sent quand même effectivement une atteinte à la laïcité qui semble assez marquée.
Et un lieu de mémoire pour la Seconde Guerre mondiale, Vincent. Il y a encore des traces de balles des nazis quand ils ont le 6 juin 40 sur le mur du CNCS, d'ailleurs.
Tout à fait. Et je suis à l'avance curieux. Alors j'y serai pas parce que je condamne ce spectacle et puis ma sécurité ne serait pas assurée si j'y étais, pour dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais je suis quand même curieux de savoir comment ils vont gérer l'année 1944 Alors, avoir la présentation, c'est l'affirmation, comme tout au long du récit d'ailleurs, de l'unité de la France. Mmh. Mais c'est faux. 1944 est une année d'affrontement, où la France est divisée socialement et politiquement, et où les ancêtres de ceux qui, comme eux aujourd'hui, veulent nous inculquer l'unité de la France, se trouvent avoir été à ce moment-là le parti de l'étranger, pour ainsi dire.
Donc voilà, donc ça c'est la lettre ouverte sur le spectacle Les Murmures de la Cité qui a été publiée, donc on peut la trouver facilement, avec pas mal de signataires, des historiens, le monde du patrimoine, de l'archéologie, spécialisé sur ce domaine, dont vous faites tous les trois partie d'ailleurs. Oui Gabriel, pour terminer.
Je voudrais juste rajouter un petit point sur les signataires, c'est que sur les 42 personnes qui ont signé actuellement, on aurait pu être un petit peu plus nombreux. Il y a certaines personnes qui n'ont pas souhaité signer,
sûr,
ou qui se sont retirées par peur
de représailles.
Alors soit, effectivement, comme Vincent le disait au début, soit de représailles de l'extrême droite.
Bien sûr.
Soit par peur de représailles de leurs employeurs.
Oui, c'est
donc,
ça.
Voilà,
oui.
Ça sont des...
Et des pressions aussi. Moi, je peux témoigner que déjà, au conseil municipal de Moulins, les regards étaient pas très amicales. Voilà, on sent des vieilles méthodes, comme Vincent Présumé l'a dit tout à l'heure, des vieilles méthodes d'un autre temps, qui reviennent à la surface, malheureusement. Donc, du coup, je comprends les gens qui n'ont pas pu signer cette... Enfin, qui n'ont pas voulu, mais qui, en coulisses, soutiennent cette cause, en tout cas.
Et donc, cette lettre est toujours active, c'est-à-dire que nous recueillons toujours les signatures, l'objectif étant d'augmenter le nombre de signataires. Donc, si vous êtes historien, enfin, voilà, en lien avec le patrimoine, vous pouvez nous écrire un mail à l'adresse suivante, auvergne.cla@gmail.com. Vous nous précisez votre nom, votre prénom, votre qualité, voilà, votre qualité, voilà, en lien avec l'histoire ou le patrimoine, et nous pourrons rajouter vos noms sur la liste.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci Vincent, merci Gabriel, merci Franck. Merci à tous les trois d'être venus sur Radio Bocage. On continuera à suivre cette actualité. Je pense qu'elle nous tient bien chaud ces temps-ci. Ouais. Et du coup, je dis demain, le Conseil communautaire de Moulins sera en partie consacré sur ce domaine, avec d'ailleurs pas mal de supporters de Murmures de la Cité qui ont déjà été appelés par les dirigeants de l'extrême droite de Reconquête, en particulier, de venir très nombreux à la salle des fêtes pour le Conseil communautaire. Voilà, c'est donc qui risque d'être animé. Merci à tous les trois.
Merci.
Du côté de la météo aujourd'hui, eh bien, il fait toujours très chaud, 30 degrés à Moulins pour ce matin et 37 degrés pour cet après-midi, avec du coup des orages et de la pluie qui feront tomber les températures. Cette nuit, 19 degrés du côté de Moulins, Dompierre-sur-Bèbre, Bourbon-l'Archambault et à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 18 degrés à Decize. Demain, jeudi 26 juin 2025, il fera beau, mais avec des températures plus agréables, avec 23 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux prospères. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute de Radio Bocage 96.5 FM, votre radio libre d'information locale, et cela depuis 1983.
Radio Bocage à Moulins 96.5.